18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien, chers amis auditeurs. Vous savez que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Quel plaisir de vous retrouver, c'est parti Les Informés, vous le savez. Eh bien, c'est vous, votre émission. Votre émission où vous commentez, vous analysez, vous décryptez l'actualité avec nous. Au menu, au sommaire, plein de bonnes choses. Il est riche ce soir, ce programme. D'abord, on va aller direction le Qatar. Vous savez que dans quelques jours, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde mondiale. Et puis, nous, à Beurre FM, on a décidé de vous faire vivre avec des jeunes collégiens, lycéens, qui se sont rendus à Doha, justement, pour aller participer à cette Coupe du Monde. Et on sera avec eux. Quotidiennement, vous savez, ils viendront nous livrer leur regard, ce qu'ils ont vécu, comment ils vivent les choses dans leur quotidien. Eh bien, c'est avec eux, désormais, que nous allons vous faire vivre tout cela dans Les Informés sur Beurre FM. Vous le savez, et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ensuite, vous savez, chers amis, j'irai tout à l'heure pour commenter l'actualité aux États-Unis, le midterm, justement, avec Jean-Claude Beaujour. Vous savez, c'est l'avocat qui a l'habitude de venir sur les plateaux ici même. Avec lui, nous reviendrons sur Trump. Est-il encore possible? Enfin, faut-il y croire? Parce que lui-même, il y croit. Donc, comme il y croit fort, eh bien, nous, on a envie de se poser la question et de se dire aujourd'hui comment Trump se positionne-t-il pour les élections prochaines. Ensuite, après, vous savez, on a en exclusivité, ici même, l'artiste, la star, Nadj, franco-marocaine, a décidé de choisir Beurre FM et venir ici pour livrer l'extrait de Nîmes pour accompagner l'équipe marocaine. Et elle a choisi Beurre FM. Et on la remercie infiniment pour nous faire écouter à la fois en exclusivité l'extrait, mais également aussi nous dire les raisons qui l'ont motivée pour accompagner l'équipe. Et puis vous, au 01 53 48 3000, vous le savez, on reviendra sur les sujets d'hier. Alors comme vous m'avez dit, vous m'avez interpellé par mail, vous m'avez dit, oui, bah, attendez, ça a été un peu court. Donc, on va reparler des violences conjugales. Quand ça commence, et jusqu'où, voilà, quand ça finit, eh ben, on prendra le temps d'en parler ici même, dans Les Informés, chers amis auditeurs, au 01 53 48 3000 tout à l'heure. Allez, pour l'heure, nous allons aller direction le Qatar. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et allez, c'est parti, vous savez, pour l'interview, direction Doha, le Qatar.
Les Informés. L'interview.
Alors que justement, Emmanuel Macron, le chef de l'État, vous savez, il a dit que aujourd'hui, hein, qu'il était contre un boycott du Mondial au Qatar, qu'il trouvait qu'il fallait pas politiser la chose. Nous sommes en direct avec Samira Djouadi, qui est la patronne de la Fondation TF1. Elle est avec les jeunes, justement. Sportavi, également, l'association qui a proposé à ces jeunes de se retrouver lors de cette Coupe du Monde de football à Doha. Et justement, on a décidé de vous la faire vivre. Bonsoir, Samira Djouadi.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous tout d'abord? Je sais que vous êtes à Doha avec les jeunes, et les jeunes autistes notamment, parce que on les avait accueillis à l'antenne. Comment ils se portent et comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait bon voyage?
Eh ben, on a fait un super voyage. Alors, on est venu là. Alors, on a un premier groupe qui est là avec moi, qui vient des Ulysses avec l'association Nazario. Mmh. Et tout le reste du groupe arrive dimanche.
Arrive dimanche.
Voilà, on est arrivé dans des très bonnes conditions. Il fait une chaleur incroyable. On se croirait en plein été ici.
Vous avez de la chance.
Et voilà, on a énormément de chance. Et ben depuis qu'on est arrivé, ça veut dire il y a deux jours, ben le rythme est assez intensif. Ils ont déjà fait plein de bonnes choses et puis découvert des choses assez incroyables.
La Coupe du Monde 2022, la Coupe mondiale de football au Qatar, justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous, la raison de votre présence là-bas à Doha avec la Fondation TF1 et Sportavi?
Exactement. Alors, d'abord, l'association Sportavi organise depuis maintenant 22 ans des projets autour des grands événements qui sont à la fois soit une Coupe du Monde, soit des Jeux Olympiques. Donc là, en l'occurrence, c'est la Coupe du Monde au Qatar 2022, avec bien entendu notre ADN qui est d'utiliser le sport comme support pour enfin pouvoir ouvrir les chakras de nos petits jeunes, leur redonner confiance, leur montrer combien ils sont intelligents, parce qu'en fait, le projet tourne autour de tout un projet culturel, de citoyenneté, de rencontre avec d'autres jeunes, de manière à justement développer la langue à la fois anglaise, parce que c'est ce qui permet de parler dans le monde entier, mais aussi l'arabe, puisqu'on est au Qatar. Et donc, en fait, grâce à cette Coupe du Monde, ils vont pouvoir découvrir des choses assez extraordinaires, à la fois sur le plan culturel, mais aussi sur les relations avec les autres.
Et je sais que cette année, vous avez embarqué avec vous, durant ce voyage, des jeunes autistes, justement. C'est des collégiens, c'est des lycéens, précisément ?
Alors, il y a un peu de tout, effectivement. Alors, on a des enfants autistes qui seront parmi nous parce que on prône l'inclusion et pour nous, c'est très important. Mais on a des lycéens, des collégiens et puis surtout une classe de primaire de Sarcelles. Donc, toute la classe qui bosse sur le projet depuis un an, intégré dans leur programme pédagogique avec leurs institutrices. Donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Avant le projet, ils ne savaient même pas que le pays Qatar existait, ils ne savaient même pas le situer dans une carte.
C'est
et
vrai,
aujourd'hui, ils sont incollables. Incollables.
Dites-moi, Samira Djouadi, vous, la directrice générale de la Fondation TF1, ensemble avec Beurre FM, et je vous en remercie d'avance, on va faire vivre cette Coupe du Monde avec ces jeunes, justement, quotidiennement, d'ailleurs.
Exactement.
Comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont nous raconter ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ont vu durant la journée ? D'ailleurs, j'ai cru comprendre que un des jeunes va être avec nous ce soir.
Ah bah il est à côté de moi, il est tout près de moi. Il s'appelle Amara et il va raconter ce qu'il a vécu depuis deux jours. Et puis surtout, et ça c'est extraordinaire, c'est cette prise de conscience parce qu'on a la chance de venir un petit peu aussi avant le reste du groupe parce que en fait ils ont été invités à un projet qui est porté par la Supreme Committee qui organise la Coupe du Monde ici au Qatar qui a un programme qui s'appelle Génération Amazing et en fait il y a des jeunes comme eux qui viennent du monde entier et en fait ils n'ont que l'anglais pour s'exprimer. Et là, ils se sont rendus compte de l'importance de l'apprentissage des langues pour pouvoir échanger, pour pouvoir être à l'aise. Et ça, c'est, je dirais, un apprentissage accéléré comme ils ne peuvent jamais avoir autrement.
Excellent. Quelle chance pour ces jeunes. Voilà. Quelle chance.
Exactement.
Quelle chance. Absolument. Donc, quel est son prénom, le jeune qui va être en direct avec nous ?
Il s'appelle Amara. Eh bien, je te le passe. Non, Amara.
Amara. Pardonne-moi. Amara, il a quel âge, Amara ?
Eh ben, je te le passe, il va te le dire.
Bonsoir.
Allô, bonjour.
Bonjour Amara. Bonjour. Quel âge as-tu ? Tu es un jeune collégien ou lycéen ?
Je suis un jeune lycéen, j'ai 15 ans.
15 ans. Oh, et tu as une chance exceptionnelle de te retrouver dans cette Coupe du Monde au Qatar à Doha. Alors comment tu as vécu ces deux jours passés à Doha pour le moment ?
Ces deux jours qui sont passés sont exceptionnels. À l'arrivée à l'aéroport, on a été accueillis chaleureusement. Et voilà, dès qu'on est sorti, il faisait très chaud. On est très content d'être au Qatar.
Très content. Qu'est-ce que tu as vécu ? Qu'est-ce que tu as échangé, justement ? Comment cette Coupe du Monde se prépare en ce moment ? Qu'est-ce qui te frappe, toi ?
La Coupe du Monde, déjà, aujourd'hui, on a été à un festival. Et. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des jeunes étrangers, et on a pu dialoguer avec eux en anglais. Et il y a plein de jeunes arabes, anglais, espagnols, et on essaie de communiquer ensemble. Mmh. On fait des activités ensemble et tout, voilà.
Comment va se passer cette Coupe du Monde ? Est-ce que tu auras la chance d'aller rencontrer, par exemple, certains joueurs, d'aller vivre aussi des matchs ?
Je l'espère déjà.
Oui.
On va regarder 3 matchs de l'équipe de France et on va sûrement rencontrer tout l'effectif de l'équipe de France, notamment Kylian Mbappé, Kamavinga, Tchouaméni, etc.
Bon, alors ça veut dire concrètement, cela va se traduire quotidiennement. Les jeunes reporters vont pouvoir, vous allez pouvoir venir raconter ce que vous avez vécu durant la journée ici même, dans les informés sur BFM, n'est-ce pas ? Avec tes camarades, justement, tous celles et ceux qui partagent avec toi cette chance incroyable. C'est une chance incroyable d'ailleurs de vivre cette Coupe du Monde, non ? Pour toi ?
Exactement, c'est un rêve depuis petit. Et là, on a su la saisir grâce à l'association Nazario et Sportavi.
Tu es un passionné du foot ?
Exactement, je rêve d'être footballeur professionnel.
Quel est ton joueur préféré ?
En fait, je suis gardien de but. Je préfère Thibaut Courtois.
Ah là là, je vois que c'est un connaisseur. Enfin, connaisseur. Allez, je peux te poser une dernière question. Pronostic pour cette Coupe du Monde. Comment tu vois les choses?
Pour moi, la France va gagner la Coupe du Monde face au Brésil.
Face au Brésil. Eh bien, j'espère que ton pronostic est bon. Merci, jeune homme, et à très vite sur notre antenne. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, jeune lycéen de 15 ans. Samira, je vois que vos jeunes sont... comment dirais-je, ils sont il y a une exaltation de vouloir vivre justement cette Coupe du Monde.
Complètement. Et puis pour eux, franchement, hein, c'est une expérience inédite, incroyable. Ils sont émerveillés par tout ce qu'ils découvrent tous les jours. Hier, on a passé la journée en repérage. Ils ont pris le métro. Ils ont comparé notre métro à celui du Qatar qui n'a rien à voir. Ils sont allés au Souk El Wakif, donc où là il y a toutes les installations pour les fans de la Coupe du Monde. Voilà, ils mesurent la chance qu'ils ont et franchement, ils nous le rendent bien.
Je peux vous dire, moi passionné de football, je peux vous dire qu'ils ont une chance exceptionnelle, franchement.
Exactement.
Ouais. Demain on est avec Rachid, le président de Sportavi, qui sera sur le plateau et on vous appellera également.
Exactement, et là on prendra un autre jeune du groupe qui racontera la journée de demain.
Exactement.
Avec plaisir.
Comment vont nos jeunes autistes également? Je me permets de vous poser la question, Samira.
Eh ben super, ils sont excités d'arriver, eux, parce que on échange avec eux beaucoup d'ailleurs. Et je pense que ça va être une expérience incroyable. Et d'ailleurs, Adil, on embarque avec nous Yvan ou Angie. Tu sais, de l'équipe de France de foot, qui va vivre la Coupe du Monde avec nos jeunes, ce qui va nous permettre aussi de faire de l'inclusion avec lui, de vivre avec une personne non-voyante. Donc, cette Coupe du Monde, pour nous, elle est riche en rencontres, en découvertes, en plein de choses qui font qu'à un moment donné, ces gamins, quand ils vont rentrer, ils vont pas parler que des matchs, ils vont parler de tout ce qu'ils auront pu vivre à travers notre programme et tout ce qu'on a pu mettre en place pour eux, en fait.
Eh bien, merci de nous faire vivre cela, désormais, vous le savez, en partenariat avec vous, pour faire vivre, justement, cette Coupe du Monde au Qatar, à Doha, avec Sportavi et la Fondation TF1, ici même, dans Les Informés, quotidiennement, 5 minutes pour parler avec ces jeunes et nous raconter ce qu'ils vivent durant, évidemment, ces journées. Merci, Samira. À demain, donc, avec Rachid
merci
en direct.
Merci, Adil. À demain.
C'est génial. Salut, à très bientôt. Je vois que l'ambiance est... Non mais c'est bien, vous êtes de véritables supporters et je vois que vous connaissez... Je vois que vous avez le rythme dans la peau. Excellent, à demain. Merci à vous.
Merci
à vous. 18h14. C'est évidemment rendez-vous demain avec le président de Sportavi ici même sur le plateau et un autre jeune pour vous faire vivre quotidiennement cette Coupe du Monde à Doha. Pause et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Ah là là, je discutais avec Philippe. Philippe, arrête, Philippe, qu'est-ce qu'il se fait, Philippe? Philippe, on est en direct. Bonjour, Philippe, salut nos auditeurs.
Bonsoir Adil, bonsoir à
comment ça va? C'est rare de te voir dans les couloirs le soir, t'es plutôt
non,
du matin,
vrai,
toi.
T'avais besoin d'un petit massage, donc je suis venu. T'avais des tensions, et c'est vrai que le direct
01,
comme ça...
Hein. 01-53-48-3000, vous cherchez un bon massage, Philippe.
Voilà, à partir de 23h.
Il est bon, Philippe, que vous retrouvez.
Bonne émission.
Que vous retrouvez chaque matin de 9h à 10h dans AVS, une émission qui cartonne. Absolument, à l'op, c'est même pas l'option, c'est avec massage. Allez, tout de suite, vous le savez, 18h22, c'est parti pour l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
Et l'interview, c'est avec Maître Jean-Claude Beaujour. Bonjour, Maître.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous? Plaisir de vous retrouver.
Écoutez, je vais bien, je suis ravi de retrouver nos auditeurs.
Absolument, avant de vous retrouver en direct ici même. Nous allons parler, vous savez quoi, des mid-terms aux États-Unis. Est-ce que les républicains aujourd'hui reprennent, on peut considérer, le contrôle de la Chambre des représentants, vous, le spécialiste des États-Unis, après avoir échoué à prendre le Sénat?
Oui, alors tout d'abord, juste ce que l'on sait à peu près de manière certaine, les résultats vont encore s'affiner, c'est que le Sénat est aux démocrates et que la Chambre des représentants est quasi est acquise aux républicains, suivant en fonction des derniers dépouillements. C'est ce qu'a annoncé un certain nombre de médias. Voilà.
Et ça veut dire quoi, ça?
Et ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire tout d'abord que il n'y a pas eu de vague rose comme on l'imaginait, puisque vous savez que tout au long de la campagne, certains analystes allaient jusqu'à dire qu'on aurait une vague rose à la fois au Sénat et à la fois à la Chambre des représentants. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne s'est pas produit ce phénomène. La deuxième chose, c'est que ça condamne le président à continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va devoir négocier, composer en permanence avec le Congrès. Vous savez, aux États-Unis, en termes de politique interne, le président américain a probablement moins de moyens que le président français. Le président américain doit vraiment, il y a vraiment une séparation stricte des pouvoirs, et il doit composer avec le Parlement en permanence pour faire passer ses projets de loi. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de difficultés. Le président Biden va rencontrer un certain nombre de difficultés en fonction des projets qu'il va présenter. Le dernier élément que je voudrais signaler, pour qu'on soit quand même assez attentif, c'est qu'au-delà de l'élection au Sénat et de la Chambre des représentants, il faut aussi voir qu'un certain nombre d'élus, entre guillemets, locaux, l'ont remporté dans un camp ou dans un autre, et c'est là aussi un indicateur pour le résultat des Républicains, et en particulier Donald Trump. Je voudrais juste rapidement vous signaler, en Pennsylvanie, par exemple, le candidat démocrate est élu gouverneur de Pennsylvanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Pennsylvanie, qui avait été remportée par Biden lors de la dernière élection présidentielle, apporte 20 grands électeurs pour l'élection présidentielle. De même que en Arizona, Kathy Hobbs, qui est démocrate, remporte l'élection face à Carrie Lake, qui est une très très proche de Donald Trump. Cette proche de Donald Trump qui a indiqué que si elle perdait les élections, les habitants de l'Arizona sauraient quand il y a des arnaques.
Alors,
là encore, l'Arizona apporte 11 grands électeurs. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ce sont deux exemples pour vous dire qu'il n'y a pas seulement le résultat du Congrès, mais il y a aussi un certain nombre de résultats de gouverneurs qui peuvent, évidemment, qui confortent Biden. Ces deux exemples de Pennsylvanie et de l'Arizona en sont l'illustration. Voilà un petit peu pour le résultat, ce qui veut dire...
Non, c'était important, c'est vrai.
Les démocrates ont limité, j'ai envie de dire, ils n'ont pas remporté en tant que tel, mais ils ont vraiment limité la casse. Ils ont bien résisté. C'est une surprise, parce qu'on aurait pu imaginer qu'ils résistent beaucoup moins bien. Et puis surtout, la grosse surprise, c'est qu'il y a un désaveu, en tout cas un désamour de Donald Trump, parce qu'il a su mobiliser... Il sait mobiliser ses...
Mais justement, je vais pour vous poser la question. Maître Jean-Claude Beaujour, est-ce qu'il n'a pas pris l'eau, Donald Trump? Est-ce qu'on peut parler quand même d'un flop?
Je pense qu'on peut largement parler d'un échec, parce qu'il nous annonçait quelque chose de grandiloquent. Il n'y a pas eu cette chose de grandiloquente. Un certain nombre de ses très proches sont battus, même si certains proches sont aussi élus. Mais une personne comme Carrie Lake battue, ça montre bien que Trump, en réalité, il sait mobiliser les Trumpistes. Alors ça, il sait faire le show, mais il ne parvient pas, évidemment, à créer une dynamique. Si bien que, de mon point de vue, les Républicains vont chercher à se débarrasser.
Sauf qu'en ce moment, il amuse et il inspire beaucoup de gens, justement, les internautes, avec son tout nouveau slogan, MAGAGA.
Oui. Oui, bien sûr, bien sûr, mais vous savez, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il sait faire le show, il sait animer les médias. C'est vrai qu'il attire plus la lumière que Biden, mais il faut se méfier de l'animation et de faire le show et l'élément déclencheur de vote. C'est un élément que je voudrais vous signaler, ce que les Américains ont aussi dit lors de ce scrutin, et ça s'adresse aussi bien aux républicains qu'aux démocrates, c'est qu'ils ont des problèmes fondamentaux, des problèmes importants pour lesquels ils attendent des solutions. Je pense à l'inflation, le coût de la vie, je peux vous le dire, séjournant parfois aux États-Unis. Je peux vous dire que moi, j'ai vu le fameux panier de la ménagère, je peux vous en parler. On voit le prix des produits à la consommation, le prix de l'essence, le prix du logement. Vous savez que, par exemple, en Californie, vous pouvez gagner 4 000 $ par mois et ne pas pouvoir vous loger. Il y a des gens qui gagnent 4 000 $ par mois et qui sont sans domicile fixe. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame, parce que le logement a flambé en Californie. Et les amis, il y a la question de l'avortement. Donc, le peuple américain, par ce résultat mitigé, peut-être a envoyé aussi un message en disant « Attention, cher candidat, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le show, mais ce sont des résultats palpables pour notre quotidien. » Donc, voilà, c'est là où on dit qu'il faut se méfier du show et peut-être s'attacher aussi aux résultats.
Dites-moi, Maître Beaujour, il y a un homme qui menace Donald Trump. Qui sait précisément ? Paraît-il que, évidemment, chez les Républicains, ça fait débat.
Alors, il y a plusieurs personnes, vous savez. Alors, le président, l'ancien président Donald Trump a déclaré qu'il serait candidat, mais ça n'est pas une surprise, mais ça n'est pas parce qu'on est candidat qu'on sera élu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas élu, mais je dis le fait qu'il soit candidat ne fait pas de lui le candidat du deuxième tour, le premier tour étant les primaires, qui sont encore loin, c'est dans un an les primaires. Alors, il y a le gouverneur de la Floride, de Santis, qui est un homme jeune, qui est un homme un peu de l'establishment. Il a fait ses études de droit dans de grandes universités, notamment à Harvard. Et il a été très bien réélu. Ça pourrait être un challenger. Sur le papier, on considère qu'il coche un certain nombre de cases. Il est d'origine italienne et il est d'un État, la Floride est un État qui a une certaine importance et de un certain nombre de grands électeurs. Il y a un autre candidat, et je vous invite à être attentif à son parcours, c'est l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, dont vous avez vu qu'il s'éloigne beaucoup. Il prend des positions très éloignées de celles de Donald Trump. Il s'est bien dépositionné, j'emploie à dessein cette expression, dépositionné par rapport aux événements du 6 janvier. Du 6 janvier 2021, d'invasion, de tentative d'invasion du Congrès. Donc, ça n'est pas pour rien. Vous savez, un homme politique de ce niveau ne fait pas les choses juste pour pouvoir parler à l'Amérique au coin du feu alors que l'hiver approche. C'est pas du tout cela. Il a peut-être des velléités de candidature à la présidence. Attention, c'est un homme très à droite aussi, un très grand conservateur. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent challenger, qui pourraient challenger Donald Trump et qui pourraient ne pas faire peur plus largement aux républicains, parce qu'aujourd'hui, le problème de Donald Trump, c'est que à la fois sa campagne manque d'épaisseur sur les propositions. C'est bien de faire des blagues, mais il vaut mieux, une fois qu'on a dit c'est très très grave telle ou telle chose. Je pense que sur le plan des politiques publiques, il est attendu. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il faut aussi aller chercher dans une élection comme celle-là, il faut que ce soit un candidat qui soit capable de rallier ce qu'on appelle les centristes, c'est-à-dire ceux qui ne votent ni qui ne sont pas figés chez les républicains, figés chez les démocrates, on les appelle les centristes. Ce sont ceux-là qui vous permettent de remporter l'élection.
Donc autant dire que, Maître Beaujour, Trump n'a aucune chance pour les prochaines élections présidentielles.
Je n'ai pas dit cela. Attendez, je n'ai pas dit cela.
Je vous pose la question.
Je dis deux choses, pour qu'on soit très clair. Je dis deux choses. C'est qu'aujourd'hui, il mobilise essentiellement son camp, c'est-à-dire à peu près 30% d'électorats républicains, mais il a du mal à aller, il a du mal à rassembler largement, à faire l'unanimité au Parti républicain. La deuxième chose que je dis, c'est que ayant du mal à rassembler son camp, il aura encore plus de mal à récupérer les centristes. Donc c'est vrai qu'il faut être attentif à ce que on ne lui préfère pas Mike Pence ou bien DeSantis. Cela étant, là où il faut, là encore, et vous savez que les primaires ne sont jamais gagnées, c'est que souvent certains, on l'a vu, y compris en France, on a un programme de primaire très à gauche, en fait très très aux extrêmes, entre guillemets, quand on est à droite ou quand on est à gauche. Après, toute la difficulté consiste à revenir au centre. Donc, c'est un exercice difficile. Et puis, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mmh. En face, dernier point, la chance du candidat républicain ou la malchance du candidat républicain, c'est aussi par effet miroir, son rival, qui sera un rival démocrate. Est-ce que ça sera Joe Biden? Nous n'en savons encore rien, même s'il dit qu'il veut être candidat. Est-ce que ça sera la vice-présidente Kamala Harris? Pour cela, il faudra qu'elle fende l'armure et qu'elle aille chercher les votes de soutien de la gauche démocrate, parce que Bernie Sanders, etc. Il faudra qu'elle aille chercher la gauche, qu'elle fende l'armure, parce que pour l'instant, elle a été un peu en retrait. Donc, c'est aussi aux démocrates à choisir le candidat qui sera le plus à même de battre le républicain qui sera, et si c'est Donald Trump, qui sera en position de battre Donald Trump.
Merci, Maître Jean-Claude. Bonjour pour cet éclairage. Vous, spécialiste des États-Unis, c'était important. Ça nous a permis évidemment de mieux comprendre les enjeux qui se tiennent en ce moment. Merci, Maître. Bonjour et à très vite sur le plateau. Hein.
Merci à vous et volontiers à très rapidement sur votre plateau à Paris.
Absolument, avec grand plaisir. Nous marquons une pause et on se retrouve tout de suite après avec Pascal Boniface et son billet d'humeur, le Qatar, encore une fois, et la Coupe du Monde.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et si vous venez de nous retrouver, sachez-le, vous êtes les bienvenus. C'est parti tout de suite, c'est 18h40, le Quad Neuf.
Les informés, le Quad Neuf.
Et le Quad Neuf, c'est avec Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonjour mon cher Pascal Boniface.
Bonjour Adil, bonjour
Quel
Adil.
Quel plaisir de vous retrouver. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur dans le Quad Neuf et bien du Mondial du Qatar. Nous vous écoutons, à vous la parole.
Alors beaucoup de polémiques sur le Mondial au Qatar, faut-il boycotter, alors toutes les équipes qualifiées comme le niveau de pub. Il n'y a qu'Italie qui va boycotter, mais sinon tout le monde, tous ceux qui qualifient les aller, certains disent non, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe, etc. Je n'ai jamais vu le sort des travailleurs immigrés préoccuper autant de monde. Enfin, quand il s'agit du Qatar, parce que quand il s'agit d'autres endroits dont la France, ce n'est pas tout à fait la même musique, hein, on est bien d'accord. Alors, bien sûr, il y a des choses à améliorer au Qatar, mais ce qui était intéressant, j'ai été auditionné hier à l'Assemblée nationale, il y avait un représentant de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, c'est extrêmement sérieux, qui disait en fait que le Qatar a fait des progrès et que finalement il y a des chiffres qui circulent. Et dit ce chiffre de 6500 morts sur les chantiers, en fait c'est un faux chiffre, il concerne une période non pas récente mais de 10 ans et l'ensemble des étrangers, et ni l'OIT ni Amnesty International ne reprennent ce chiffre, et les gens le reprennent sans vraiment réfléchir. Mais surtout, et c'est là où je veux l'en venir, ce qui est important, c'est que on a beaucoup parlé, moi le premier, de la coupure The West versus The Rest, l'Occident contre les autres concernant l'Ukraine. On a la même chose par rapport au Mondial au Qatar. Où est-ce qu'il y a un débat pour savoir s'il faut y aller ou pas, s'il faut regarder ou pas? Dans les pays occidentaux, dans les pays européens, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ce débat n'existe pas du tout. C'est vraiment de nouveau une sorte de coupure entre les Occidentaux et les autres. Et donc oui, il y a certainement des choses à améliorer au Qatar. C'est un pays qui a 50 ans, donc il ne peut pas être au même niveau que nous. Mais on voit que derrière l'inquiétude et les préoccupations sincères, par exemple, d'Amnesty International, il y a aussi des arrière-pensées. Et puis cette coupure, une fois de plus, donc, l'Ouest contre le reste, je crois qu'il faut y faire attention.
Absolument, vous avez bien raison de le rappeler. Aujourd'hui, vous savez, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a rappelé qu'il ne fallait pas politiser le foot ni le sport, justement, et qu'il fallait éviter de rentrer dans le polémique. Bon.
Oui, alors ça, par contre, aussi, en fait, foot et sport et politique sont mêlés. Mais par contre, il faut l'avouer franchement, et on ne peut pas demander, comme le font certains, de boycotter le Mondial, et par contre de vendre des Rafales, des Airbus au Qatar, et de lui acheter du gaz et du pétrole.
Absolument. Merci, toujours, et plus que jamais, vos références, votre éclairage, votre décryptage. À jeudi prochain, sans faute, mon cher Pascal Boniface.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé. Portez-vous bien, 18h43, nous allons aller direction toujours, on reste dans ce Mondial, justement, et nous allons y aller découvrir, justement, cet tout nouveau morceau, vous savez quoi, qu'on va vous faire découvrir en exclusivité sur Beurre FM, et l'artiste Nage, la star, donc franco-marocaine, a décidé de choisir Beurre FM, justement, Mondial. mondial pour cette team. Allez, et vous aussi au 0153483000, nous parlerons, vous savez, des violences conjugales tout à l'heure, puisque on en a parlé hier, vous avez voulu, vous, prolonger le débat, donc aujourd'hui même. Allez, on va parler toujours du Qatar, et avec le Qatar, cette Coupe du Monde qui s'annonce d'ores et déjà, évidemment, avec plein d'engouement, je le sens quand même. Nous sommes avec une star, une artiste que vous connaissez, une franco-marocaine qui s'appelle Naj, qui a, vous savez quoi, commencé d'abord à évoluer en France, son pays d'accueil, et puis qui a fait de véritables étincelles au Maroc. On parle beaucoup d'elle en ce moment, elle est avec nous, et elle a choisi Beur FM pour nous livrer quelques extraits en exclusivité, ici même. Bonsoir Naj.
Bonsoir Adil, bonsoir Beur FM et tous ses auditeurs, bonsoir la France.
Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver parmi nous, vous êtes une véritable star, évidemment, franco-marocaine. Et vous êtes avec nous, d'abord vous composez, vous pouvez nous rappeler juste l'univers de votre registre musical?
Alors Naj a commencé en étant signée chez Sony. 2005 a été notre première télé au Maroc avec mon groupe Najma, et puis je suis partie à Miami pour faire pour faire un album et des singles aux côtés de grands producteurs de talent comme Timbaland, Da Carey, etc. Et à mon retour, le buzz a fait effet avec le titre Keep Your Eyes on This avec Rof, en France notamment, au Maroc, en Bulgarie, dans pas mal de pays. Et là, je me suis dit, ensuite, après ça, j'ai envie de revenir reconquérir mes origines, enfin le Maroc, le Maghreb en général. Hein. J'avais envie d'exporter non pas que le drapeau, mais cette consonance orientale dont je suis fière et je fais partie d'un beau pays avec riche en culture et voilà. Donc
vous qui êtes connue désormais. La chanteuse Naj, vous avez choisi Beur FM pour nous livrer quelques extraits en direct, justement, avec nous. Vous êtes au Maroc, je le rappelle.
Depuis Marrakech.
Depuis Marrakech, justement. Où il fait chaud, j'imagine, non?
Oui, il fait chaud. Ça, c'est un peu rafraîchi, mais il fait chaud.
Il fait chaud.
Donc, je vous envoie un peu de soleil.
Merci, on en a bien besoin. Alors, justement, nous étions au Qatar en tout début d'émission avec la Fondation TF1 et nous y sommes avec vous. Dans quelques jours, vous avez décidé, eh bien, c'est demain que sort l'exclusivité mondiale. Vous avez décidé d'annoncer la sortie de votre single pour soutenir les Lions de la TAS. Pour quelle raison? Dites-nous tout.
En fait, c'est parti d'un challenge et puis d'un coup de cœur en août. Écoutez, ça fait quand même plus de 4 ans hein, d'attente hein, qu'on attendait cela. Et je me suis dit, ben Naj, pourquoi tu ferais pas une chanson non pas patriotique, mais plus ou moins en motivant nos Lions et notre équipe et tous nos joueurs, parce que moi, je fais partie de cette Jariel Maghrebia. D'ailleurs, avant de chanter, j'ai un petit logo qui s'intitule « Excuse my Darija ». Et j'avais envie justement de marquer cette grande coupe, ces matchs qui vont être joués par ces Lions. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas justement créer une chanson autour de ça, autour de voilà, pour motiver
l'hymne à la joie, vous dites, hein.
Comme un hymne à la joie, exactement. Et c'est d'où le titre Nabouhanjibouha, voilà, allez les Lions, où je cite quelques joueurs notamment, dont Walid Regragui, ce petit clin d'œil, et oui, j'avais envie d'envoyer un petit message, comme vous dites si bien Adil, un hymne à la joie, tout simplement. C'est pas pour mettre de la pression, parce que je sais que c'est pas évident non plus. Hein.
Quel est l'objectif de ce single, justement?
Le but, c'est de... Vous savez quoi? J'ai vraiment envie que Bounou Hakimi, Ziyech, et que tous les gens, mais tous les Marocains au stade, carrément le chantonnent, quoi, le scand. Pourquoi? Ce serait super, ce serait génial.
Eh bien, vous avez choisi.
Que le peuple la prenne par cœur et que tout le monde le chante et que je puisse le performer sur des scènes et sur un stade, Inch'Allah.
Vous avez choisi Naj, le Beur FM, la radio et les informés, justement en exclusivité. Le single sort demain, on est d'accord?
Il sort demain, le 18 novembre, à 18h11 précisément. et j'ai choisi Adil.
Ben merci, vous savez que ça me touche. Un grand merci à vous, justement. Il sort où ? Sur tous vos réseaux sociaux, sur YouTube ?
Sur tous les social media, tous les réseaux sociaux, bien évidemment sur ma page YouTube Nage Official Music. Ne pas confondre avec Neige, hein, parce qu'il y a une autre artiste, effectivement, qui s'appelle Neige, mais Nage, N-A-J, Official Music, sur Instagram, tous les réseaux sociaux, bien évidemment, et les plateformes digitales comme Spotify, Anrani, Deezer et compagnie. Voilà, demain, le 18 novembre à 18h11.
Allez, justement, pour vous embarquer dans ce single, vous mettre l'eau à la bouche, comme on dit, vous savez, cette fameuse expression. Eh bien, en exclusivité...
Bon appétit.
En exclusivité, voici un extrait du morceau, de votre morceau, qui sort demain. Écoutons. Juste un petit bug, un petit réglage technique, justement, ça arrive. C'est le live, c'est comme ça, c'est le live, c'est
exactement
le direct.
Exactement ça, c'est le live.
C'est le live.
En direct, alors, depuis Marrakech.
Depuis Marrakech, justement, découverte de ce morceau, en exclu, ici même, sur Beurre FM.
Merci, Beurre FM.
Et donc, demain, il sort demain. Écoutons. Sur l'extrait. Oh, là, vous nous embarquez, hein, franchement, clairement. Quel rythme ! Ah, franchement, je le reconnais, là, il y a du rythme.
J'avais envie, bien sûr, voilà, c'est un peu la fête. Hein. J'avais envie un petit peu d'un morceau qui fasse danser et qui nous emmène en voyage, un peu comme les sons qu'on a entendus que Shakira fait, Gillo, tous ces sons un peu d'influence, un peu afrobeat, latino, pop. Voilà, c'est le but et je suis très heureuse et très contente d'avoir pu jouer ce petit extrait à tes côtés, Adil. Et merci à Beurre FM, à tous les auditeurs de Beurre FM. En tout cas, j'espère que Radia Ejeb, ça veut dire j'espère qu'il va plaire et j'espère que ce titre fera le tour du monde, non pas que parce que c'est le mondial, hein, finalement, il n'y a pas de frontières. Hein.
Demain, 18h11, précisément sur la chaîne YouTube de Nage Official Music. Exactement. Allez-y, vous connectez 18h11 pour aller découvrir le clip en exclusivité demain. Vous avez vu, on a eu la chance justement de le découvrir ici. Un grand merci d'avoir choisi Beurre FM Nage justement pour diffuser cet extrait. Merci à vous et évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Performer partout en France, partout au Maroc, en Algérie, en Tunisie, Maghreb United, hein, comme je le dis tout et tout fort, parce que nos cœurs seront liés à jamais, et puis pouvoir le jouer, pourquoi pas, dans des pays du Golfe, et puis pouvoir tourner un peu partout dans le monde et représenter mes origines et le drapeau marocain
pour les Lions de l'Atlas. On l'aura compris, effectivement.
Exactement.
Grand merci Nage, chanteuse star franco-marocaine qui était avec nous en exclusivité sur Beurre FM dans Les Informés pour nous parler de son clip qui sort demain à 18h11. Ça y est, on le sait. On finit avec un petit extrait. Merci Nage, je vous embrasse.
Merci Beurre FM, bisous.
Merci à vous. Allez, on finit juste avec un petit extrait. On se retrouve là tout de suite. Je veux juste vous proposer, je vous embarque un peu dans cette Coupe du Monde. Écoutez l'extrait.
Victory.
Il est bon le morceau, il est bon, il est excellent, franchement, chers amis auditeurs. Demain, je vais y aller, moi, hein, demain 18h11, je vais regarder ce morceau, ce clip-là. Il est bon, franchement, bravo Nage. Il, comme ils disent, vous savez, il déchire, il n'y a rien à dire. Excellentissime. Allez, 18h54, nous allons marquer une pause, mais tout de suite, eh bien, je vais vous solliciter, chers amis auditeurs. Hier, vous savez, vous avez été très nombreux de vouloir parler de la violence conjugale. D'abord, on a eu un débat très animé, parfois houleux, mais tant mieux, c'est aussi le principe des informés. Eh bien, je fais appel à vous, justement, où commence la violence conjugale, où elle finit. Hier, avec les débatteurs, on en a parlé, et je voudrais qu'on en parle ce soir. Qu'avec vous, je veux terminer l'émission avec vous, au 01 53 48 3000, faites sauter le standard partout en France. Justement, venez parler de la violence conjugale. Est-ce que vous considérez, vous, je vous pose la question, comme je l'ai fait hier de la même manière avec les débatteurs, et je vous ai posé la question, vous avez été nombreux, est-ce que vous considérez que le début de cette violence conjugale commence par une gifle? Kat Nance, le député, il a giflé son ex-femme. Est-ce que vous considérez que c'est le début d'une violence conjugale ou est-ce qu'il est excusable? Eh bien, venez en parler. 01 53 48 3000. Dans votre quotidien, on a tous vécu ça. Tous à un moment. D'accord? 01 53 48 3000. Faites sauter le standard, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Eh bien, allez, le standard, les auditeurs ont la parole, votre espace de liberté. Et quand je dis en liberté, c'est en toute liberté d'expression. C'est parti, jingle.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
De la même manière, hier, vous étiez très, très, très nombreux à nous appeler. Eh bien, je voudrais aujourd'hui, justement, parce que vous me l'avez demandé, de reparler des violences conjugales. Je sais que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur. Eh bien, parlons-en ce soir. Justement, vous, hier, vous étiez beaucoup. Hier, ça faisait 50-50. Vous considériez hier que, justement, mettre une claque à sa femme, avec parce que vous étiez sous l'emprise de la colère, s'il s'excuse, si la personne, en tout cas, s'excuse, vous étiez nombreux hier à me dire... Bon, c'est pas grave, on passe. Et puis ça a heurté certaines femmes qui se sont dit « Non, ça ne passe pas, parce que c'est le début d'une violence conjugale, justement. » Eh bien, parlons-en ce soir. Vous, comment vous le vivez, cette violence conjugale? À quel moment vous considérez que mettre une claque ou pas, même d'ailleurs des insultes ou une violence verbale, est-ce que vous considérez que ça commence là, à partir de ce moment-là? 01 53 48 3000, je vous attends, le standard est ouvert. Fatia de Paris. Fatia,
bonsoir Adil, bonsoir à tout le monde, aux
Qu'est-ce
auditeurs.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Fatia?
Eh ben, moi je suis retraitée.
Retraitée, voilà. Je vous écoute.
Je bien. M'occupe de mes trois petits-enfants.
Bienvenue, vous
avez bien raison. Eh bien, hier oui. Ça m'a percuté, le sujet. J'ai entendu pas mal d'avis. Et il y a eu des pour, des contre, des voilà. Alors tout est relatif, comme on dit. Il y a des gens qui ont
fait des très. Oui, parce que hier les auditeurs m'ont reproché. Oui, mais pourquoi je voulais passer à l'antenne, etc. Oui. C'est pour ça que je remets le sujet sur la table. Vous étiez vraiment, je vous le dis, je vous en remercie.
Non, moi, j'ai vu que c'était complet. Donc voilà, j'ai essayé aujourd'hui. Et ben, il se trouve que j'ai eu de la chance.
Alors on vous écoute.
Parce que subitement, ça m'a replongé à ma propre histoire. Oui. Tout est relatif, comme on dit. J'ai entendu des avis. Par exemple, il y a un avis que j'ai trouvé vraiment ce que j'ai pensé le plus. Comment dirais-je? Je vais heurter peut-être des auditeurs, mais après, j'ai pas très bien suivi l'histoire. Oui. Mais après 40 ans de vie commune, de vie conjugale, il y a des auditeurs qui ont suggéré, enfin, l'idée que ça peut. Nos parents, on les voyait, mais pas dans la violence. Ils savaient très bien se pardonner discrètement. Il y avait la pudeur. Mais là, c'est un couple après 40 ans. Le conjoint, pour être arrivé à lever la main comme ça, à gifler, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce qui se passe, c'est que c'est après 40 ans, c'est pas après 10 jours ou 15 jours. Bien après, donc, un bouquet de fleurs, comme on dit certains auditeurs, surprendre sa femme en l'emmenant au restaurant et puis on efface tout, on recommence. Voilà. Oui. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a eu.
Oui,
y a
ça,
le
vous
temps.
Dites, ça vous dites non.
Non, vous c'est pas le début de la. Moi, je dis que c'est pas. Moi, je vais vous dire pourquoi. Moi, personnellement, je suis grand-mère aujourd'hui, d'accord? Eh bien, je me suis mariée comme ça. Bon, j'ai eu un époux qui m'a baratinée. Il a précipité le mariage. En Algérie, je parle. Hein. En deux mois, et après c'était, enfin, bref. Ouais. Donc, on s'est marié vite fait, etc. Je me retrouve dans la maison familiale. J'ai accepté, pensant que c'était une grande famille comme nous. Bon, ah, j'ai trouvé autre chose. Un mois et demi après le mariage, je me retrouvais enceinte. Ouais. Je ne savais même pas. Il avait fait les analyses lui-même. Et parce qu'il y a eu un petit incident dans la famille, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je me retrouve, alors, il m'a frappé avec deux ceintures.
Deux ceintures? Voilà.
Oui, hier, oui, vous savez, vous étiez, ce détail-là.
Attendez, c'est enceinte. Important. Vous étiez enceinte, donc femme, oui,
et je vais vous dire, il avait fait des analyses. C'est lui-même qui a fait les analyses parce que quand on s'est marié, moi j'étais enseignante et tout, à la rentrée scolaire, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que je fais pour le collège? Il me dit, il n'est pas question que tu travailles. Donc, j'étais une femme qu'il avait mise à la maison pour vivre avec sa famille, comme ça, et je ne sais pas ce que je devenais, objet de la... Enfin, bref. Je me retrouve enceinte, mais sans le savoir, parce que c'est lui qui a fait les analyses, il avait les résultats, et c'est lui qui savait. Toute la famille savait, sauf moi. Moi, vous savez, ben, je ne rentre pas dans les détails. Mmh. Et parce qu'il y a eu un incident, mais vraiment un guet-apens, je ne sais pas.
Oui.
Il m'a frappée avec deux ceintures, je dis bien. Mmh. Mais ce que j'ai fait, au lieu de prendre mon courage à deux mains et de sortir, d'aller chez mes parents, prendre un taxi, puis le faire payer à l'arrivée chez mes parents, sortir sans rien.
Ouais.
J'ai fui chez un voisin à eux, un voisin. Mmh. Et alors lui, ne me trouvant pas à la maison, bien sûr, ils ont cherché toute la maison, etc. Et finalement, le monsieur chez qui j'étais a été le voir, etc. Il l'a ramené, il est venu, il pensait que j'avais été chez moi, il a eu peur. Mais si je retourne en arrière, c'était pas chez moi que je devais aller, c'était au commissariat.
Oui, exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
C'était au commissariat. Il m'a frappé avec deux ceintures.
Mais vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous n'aviez pas les outils de l'époque.
Je n'avais rien à l'époque, c'était comme ça en Algérie. Je ne sais pas, je n'avais pas envie de faire de peine à mes parents comme ça. Mais,
c'était,
bon,
tabou,
je...
mais c'était tabou surtout.
Non. Nous, dans notre famille, il n'y a pas de tabou. Non. On a...
Eh ben,
non,
écoutez,
chez nous.
Ne regrettez rien, ma chère Fatia.
Non, je vais vous dire une chose. Eh bien, ça, c'est de la violence. Ça a commencé comme ça. Vous savez ce que j'ai fait par la suite? Qu'est-ce que j'ai fait? Trois jours après ou quatre jours après, il a été travaillé. J'ai pris mes valises qui étaient encore là-bas, de nouvelles mariées. J'ai mis tout mon linge. J'ai contacté mes parents. Vous savez, je ne vais pas dire comment. Je leur ai dit, vous venez me chercher. Ils sont venus et je l'ai quitté. Il ne m'a jamais pardonné cet affront parce que c'était un monsieur, une famille honorable, connue dans le quartier où j'étais.
Quand je vous ai dit, soyons d'accord, quand je vous ai dit, ne regardez rien... C'est simplement...
Non,
parce que, non, mais attendez, je veux juste corriger mon propos. Je veux dire par là que, évidemment, le passé, vous ne pouvez pas le rattraper, d'accord?
Non,
au commissariat, parce que vous aviez parlé du commissariat. Sauf que voilà, vous vous êtes défendu avec les outils que vous aviez à l'époque.
Je l'ai quitté. J'ai appelé mes parents, mon père qui est venu avec mon nom, qui sont venus par la grande porte, je suis sortie. Chose parce que dans leur quartier, c'était pas faisable. Et ils ont été, le truc a été ébruité. C'est la famille une telle, connue. Il ne m'a jamais pardonné ça, à tel point que sa fille, il l'a regardé de loin. Il venait tous les 5-6 ans chercher après elle, lui ramener du linge de CA pour les pâtés. À tel point qu'un jour, il lui a ramené un manteau. Si elle pouvait, elle aurait pu dormir avec même à 40 degrés parce qu'il y avait pour elle, c'était son père.
Ouais.
Je n'ai jamais noirci le cœur de ma fille, mais quand elle a grandi, elle se retrouve ici en France et elle le retrouve, vous savez où? À 100 mètres de chez elle. Il la regarde, il la nargue avec les petits-enfants. Il ne la connaît pas, il fait semblant, il la nargue. Et tout ça, c'est pour se venger de moi. Elle a fait des mains et des pieds pour déménager, pour avoir la paix. Parce que c'était une souffrance pour les petits-enfants.
Oui,
ça, c'est de la violence.
Ça, je suis
grand-mère et ma fille, jusqu'à présent, elle souffre.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Ma fille souffre encore de ça. Les petits-enfants, ils regardaient des dessins animés et ils voient tout le monde qui ont des papis. Leur papi, il habitait à 100 mètres de chez eux. Au début, elle n'a pas voulu leur dire. Mais le jour où ils se sont retrouvés juste à côté de lui, moi, j'étais pas loin, c'était intenable, cette situation. Et ici, c'est le monsieur qui offrait des fleurs quand il va à un endroit. C'est le gentleman. Mais bon, c'est comme ça. Voilà.
Merci,
ça,
Fatia, pour ce terrible témoignage. Merci à vous.
Voilà. Deux ceintures.
J'ai bien compris. Merci, Fatia.
Merci. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Écoutez, c'est le lieu. Je voulais qu'on en reparle. Hein. Parlons-en. 0153 48 3000. Appelez-nous partout en France. Vous êtes très nombreux. Tiens, je vais accueillir Lisa de Montpellier. Bonsoir, Lisa.
Bonsoir.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites, Lisa, dans la vie?
Alors, moi, je suis soignante. Et je me permets de vous appeler parce que je me sens concernée et je veux juste motiver et encourager les femmes à ne pas
sombrer
dans la violence gratuite et domestique, j'appelle ça moi.
Oui.
Parce que ça devient une habitude pour personne de mal parler. Mais la violence, elle a plusieurs visages et plusieurs formes.
Oui.
Et on ne se rend pas compte de suite.
Oui.
Et pour être passée par là, j'appelle les gens, les hommes et femmes, parce que la violence, elle est aussi masculine pour les, du côté masculin que du côté féminin. Faut pas oublier que les hommes aussi subissent de la violence.
Oui.
Mais là, je parle pour les femmes aussi. Et c'est plus facile c'est plus difficile pour une femme de se justifier, de vouloir se combattre tout ça. Parce qu'il y a le sentiment familial, le culturel, familial, professionnel. Et on pense au regard des enfants.
Oui,
sans compter le regard du voisinage et des amis, qu'est-ce qu'on va dire, voilà. Et il faut que les femmes arrivent à affronter tout ça, parce que la violence, elle a plusieurs visages, elle a plusieurs formes, elle a une forme violente. À partir du moment où on se pose des questions, déjà, il faut se dire, est-ce que c'est pas une violence? Je veux juste dire ça, parce que si on se pose cette question, c'est que déjà on a une part de la réponse et il faut agir. Donc pour agir, je veux donner vraiment des conseils parce que je suis un peu passée par là et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte et quand je m'en suis rendu compte, eh bien, j'ai foncé. Et bizarrement, les comportements ont changé. Voilà, oui. Et il faut vraiment savoir qu'il y a les violences familiales, elles sont souvent taboues, cachées. Et c'est difficile d'affronter et de dire aux gens, ou son entourage même familial, qu'on subit. C'est très difficile.
Bien sûr que c'est pour ça que je parlais de sujets tabous tout à l'heure. Hein.
Oui, mais vous avez raison, mais c'est plus que tabou, parce que même au niveau professionnel, dire on subit de la violence, moi je travaille dans le milieu santé, affronter et dire je fais de la violence, ben oui, mais c'est pas de la violence, c'est tout est relativisé, tout est minimisé. Mais non, au contraire, à partir du moment où on se pose une question, il faut se dire s'il y a quelque chose. Soit c'est à nous de changer, soit aider la personne à changer. Si elle veut pas changer, ben c'est à nous de changer. Il faut vraiment être fort et aller au bout et ne pas avoir peur, je dirais, aux gens de se poser les bonnes questions. Pas celles qui vont nous faire plaisir ou faire plaisir aux autres, c'est celles qui vont nous faire plaisir à nous. Ce qu'il nous faut du bien. Parce que on vit dans une société où chacun pense à soi et on voit ce qui est mal chez les uns ou chez les autres, mais on oublie ce qui est bien ou pas bien pour nous.
Très juste.
La personne directement, le jeu, on l'oublie. C'est dommage.
Vos témoignages sont très importants quand je vous écoute parler. Hein. C'est important. Hein.
C'est dommage parce que on se rend pas compte. D'ailleurs, il y a la violence financière, la violence physique, psychologique, et c'est celle qui est la plus silencieuse.
La plus silencieuse.
Exact. La plus silencieuse et la plus difficile à gérer, je pense. Et il faut se rendre compte soi-même déjà. Il faut avoir les bagages.
Donc vous dites, il faut oser.
Oui, oser.
Exact, vous avez raison.
Élève-toi.
Merci Lisa de Montpellier.
De rien.
Je vais aller à Toulouse. Merci à vous. Bonsoir
Merci
Nadia, je vais accueillir Nadia de Toulouse. Bonsoir Nadia.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie ma chère Nadia?
Je suis conductrice de bus.
Ah, c'est bien ça.
Ça n'a pas été facile, mais...
Eh oui, je sais bien, c'est pas facile de faire sa place, justement.
Oui, surtout dans un monde masculin, très masculin.
Nous vous écoutons sur le sujet des violences conjugales, ma chère Nadia.
Alors moi, je dis qu'il ne faut pas accepter ça. C'est dès le départ. Moi, j'ai accepté par amour, parce que j'aimais mon mari à l'époque. J'étais vraiment aveuglée par l'amour. Mais à un point où un jour, il y a eu un point non-retour, c'est quand le jour, il m'a piétiné. Il était sûrement en train de me piétiner comme un malade. J'ai déposé plainte. J'avais très peur, je ne vais pas vous dire, j'avais très très peur.
Donc il y a eu plusieurs étapes. Première étape, vous avez été aveuglée.
Oui.
Parce que vous étiez sous l'emprise de l'amour.
Oui, voilà.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que vous avez subi, Nadia?
J'avais des violences physiques, verbales, j'étais qu'une feignante, une folle, une tarée, je foutais rien.
C'était des rabaissements.
C'était verbal ou physique?
Les deux. J'ai eu droit aux deux. Et quand j'ouvrais ma bouche et que je disais stop, maintenant ça suffit, eh bien, j'avais droit aux violences physiques. Et je vous dis, c'était des claques, c'était des coups de poing. Jusqu'au jour où je vous dis, ça a été un point de non-retour. C'est quand il m'a piétiné, il m'a piétiné mon bras, je croyais qu'il était cassé, mais il n'était pas cassé. J'ai pas réussi à le bouger pendant, en tout cas pendant 3 semaines, j'avais pas de place, mais j'avais comme une attelle, je pouvais pas le bouger. Je pouvais pas bouger mon bras. Et ça a été l'effet déclencheur. Donc j'avais déposé plainte, il m'avait supplié de retirer ma plainte. Et il a failli réussir, donc je suis retournée à la gendarmerie, j'ai voulu retirer la plainte, le gendarme il m'a dit non madame, ne le faites pas, ne le faites pas parce qu'il va recommencer. Et bien, j'ai bien fait de ne pas la retirer parce que quand j'ai décidé de partir, il m'a couru après avec une barre de fer. Si mon père n'était pas là, j'étais à 6 pieds sous terre. Et je lui pardonnerai pas tout ce qu'il m'a fait, même ne serait-ce qu'il m'a enlevé le doudou de mes enfants. Hein, quand il prenait ses enfants, des fois, juste pour m'embêter, il me ramenait pas les vêtements, le doudou. Je disais, mais pourquoi tu fais ça? Je disais, mais arrête, rends-moi les affaires des enfants, oui. Tu te démerdes.
Là, on pénalise les enfants, c'est vrai. Mais le doudou, on va pas retirer le doudou des enfants. Pourquoi non, s'attaquer aux enfants?
Il ne voulait pas me le rendre. Il m'a dit, tu te débrouilles, t'as voulu partir, maintenant tu vas t'assumer. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et au jour d'aujourd'hui, je remercie Dieu, que j'ai la santé. J'ai réussi à me relever parce que j'ai dormi au début dans une toile de tente à Toulouse, parce que je ne suis pas originaire de Toulouse. Je suis arrivée dans Toulouse.
Vous dormiez dans une tente?
Oui, j'avais laissé mes enfants chez mes parents. Oui, j'ai campé. J'ai à droite, à gauche. Je n'avais pas d'argent. Il m'a coupé les vivres. Je vous dis, je pleurais des fois. Je me disais, mais je vais revenir avec lui tellement que. Mais j'ai réussi à tenir parce qu'il y a eu les services sociaux derrière moi qui m'ont.
Qu'est-ce qui vous faisait tenir, Nadia?
Ce qui me faisait tenir, c'est que je me disais que mes parents, ils sont arrivés, d'un rien, ils ont réussi à s'en sortir. Pourquoi moi, qui est né ici, qui a grandi ici, pourquoi je n'y arriverais pas? Toute seule, malgré que. Et moi, je parle la langue, alors qu'eux, ils ne parlaient pas la langue à l'époque. C'est ça qui me motivait. Je me disais, mais bravo! Je me disais, mais voilà. Et puis, ce qui me faisait tenir, je me disais, je ne veux plus de cette violence. C'est fini. C'est fini d'être soumise. Parce que dans les années 50, les femmes se sont battues comme.
Et quelle est la relation aujourd'hui, justement, avec votre ex, celui avec lequel vous avez subi ces violences?
Maintenant, on arrive à se parler, mais je vois qu'il a la haine contre moi. Il a vraiment la haine. Il veut me détruire. Il a pas accepté la séparation. C'est tout est fait par des coups bas. C'est mesquin. C'est mesquin. C'est le genre. Il dit à mes enfants, venez, quand je lui ramène les enfants, et puis il dit à ta maman, parce que moi, j'essaie d'appeler. Moi, tout ça, je le fais pour les enfants. Moi, j'essaie d'avoir un relationnel.
Bien sûr, faut pas mêler les enfants. Oui, évidemment, je suis d'accord avec vous.
Voilà. Mais lui, tout par derrière, il essaie de me tirer du nez, puis après, il dit aux enfants des bêtises. J'ose pas dire, parce que tellement que c'est méchant. Tellement. C'est petit. Ça vole pas haut. Et donc, je disais aux femmes, il faut pas accepter, parce que par amour. Et puis aussi, c'est surtout au début, on a peur de se retrouver seul. On pense aux enfants, de dire les enfants, ils ont besoin du père pour un équilibre. Franchement, mais maintenant, comme je vous dis, je remercie Dieu de m'avoir donné la santé. J'ai réussi à m'en sortir. J'ai acheté ma maison toute seule. Je m'en sors toute seule.
Bravo Nadia, bravo.
Je suis fière de moi.
Vous pouvez être fière de vous. Je vous le dis, vous pouvez être fière de vous, effectivement. On sent votre combat, cette femme combative qui ne lâche rien. Nadia, préservez évidemment vos enfants, préservez-vous et ne lâchez rien.
Merci beaucoup.
On va marquer une pause, la dernière. Et tiens, je vais juste... je vais accueillir Younes avant de lancer la pause.
Oui.
Younes qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Younes.
Bonsoir.
Younes, ne bougez pas. On marque juste une petite pause et on se retrouve avec vous.
Ouais. Allez, j'attends.
01 53 48 3000, je vous attends, évidemment, partout en France pour parler de violence conjugale. À quel moment vous considérez qu'elle commence? Jusqu'où peut-elle aller? Parlez-en, ici même, aux informés, sur BFM. 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et bienvenue, 19h21, dernière ligne droite, justement. Je voudrais lancer un petit appel. Vous savez, on a eu une auditrice qu'on a appelée Lydia, qui n'a pas le courage hein, de passer à l'antenne. Je comprends, évidemment, parce qu'elle est en panique en ce moment. Elle nous écoute. Vous nous écoutez, Lydia. Enfin, on vous appelle, Lydia. Moi, je voudrais que vous preniez votre courage et que vous nous appeliez au 01 53 48 3000. C'est très important, parce que le standard vient de me prévenir que vous étiez sous le coup de l'émotion, sous le coup de la panique, et que vous étiez heurté par plein de choses. Venez justement, prenez votre énergie, votre force, venez en parler à l'antenne, je vous attends, 01 53 48 3000. Younes de Montpellier, avant la pub, je vous ai dit qu'on allait se retrouver. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Younes ?
Je suis pompier.
Pompier, on a besoin de vous, chers amis pompiers.
Ouais, on a besoin de tout le monde, en fait.
Alors, je vous écoute, mon cher Younes.
Donc, ouais, je rappelais par rapport à hier, j'ai entendu un peu des choses qui m'ont un peu choqué, on va dire. Quand quelqu'un arrive à justifier une violence en disant que c'est pas grave, ou c'est rien, ou c'est que le début, je voudrais m'adresser juste à tous ces garçons qu'on parlait, ou ces hommes, ou même c'est pas des hommes, c'est des garçons, s'ils justifient une violence, que est-ce qu'ils auraient aimé que leur maman se fasse taper? Est-ce qu'ils auraient eu ce discours avec maman à dire non mais c'est rien maman, pardonne. Beaucoup d'entre eux oublient qu'ils sont au monde grâce à une dame. Ils ont eu tout l'amour qu'il fallait pour grandir.
Exact.
Et comment?
Exact, je vous ai dit exact.
Voilà, et de là à justifier qu'on peut frapper, enfin qu'on peut être violent. Enfin, la violence elle commence par déjà à la maison des privations toutes bêtes. Hein. Arrête sinon, rien que ces phrases, arrête sinon je, arrête sinon tu vas pas. Qui cherche plus de femmes alors ces gars-là, qu'ils arrêtent tout simplement. Si c'est pour les maltraiter, qu'ils arrêtent. Voilà, je trouve pas ça normal. Je trouve bizarre qu'en 2022 il y ait des gars qui puissent parler.
Vous en tant que pompier, vous avez vécu des choses, il y a des choses qui vous ont frappé, choqué quand on parle du sujet de la violence conjugale. Est-ce que vous avez fait des interventions dans ce domaine?
Oui, on en fait, bien sûr. On n'en fait pas beaucoup, mais même une, c'est trop, en fait. Voilà, une, c'est trop, déjà.
Ouais,
on n'en fait pas beaucoup, mais une, c'est trop. Et malheureusement, pour avoir des collègues dans la police qui me disent que il faut que ça se répète 4-5 fois avant que les plaintes, elles tiennent, en fait. Que les plaintes, elles tiennent. C'est-à-dire qu'elles vont porter plainte, retirer ou pas aller au bout. Et au bout de 4-5 fois, c'est peut-être qu'à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont être mises en marche, en fait.
Merci, Younes, d'être intervenu. Très important.
C'est important, et je voudrais juste encourager cette Lydia, que vous appelez Lydia. Il y a des choses en France, elle a cette chance. Il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les dames dans sa situation.
Ouais. On vient de me dire au standard que Lydia a peur de passer à l'antenne par représailles, justement, qu'elle vient à peine là de se faire frapper, de se faire jeter un verre sur elle, c'est ça? Voilà. Bon, un verre d'eau. Voilà. On vient de préciser, là, je vous dis ça en temps réel. Voilà, elle vient de prendre verre d'eau en pleine figure, c'est ça? En pleine figure, en plein visage, en plein crâne, voilà, on me précise. Le cerveau.
Lydia, sans passer à l'antenne, va-t'en, en fait. C'est la dégringolade, va-t'en.
Porter plainte, voilà. Tout simplement, au commissariat.
Ouais, si elle veut après, mais déjà qu'elle se protège elle. Elle se protège comme elle veut, mais qu'elle se protège elle. En allant chez les amis, ses parents. C'est dur, hein. Je pense que c'est dur, hein, du jour au lendemain, de changer de vie, de couper contact, etc. C'est dur parce qu'il y a les sentiments, il y a peut-être des enfants, il y a ce chantage affectif avec les enfants. Je te ramène pas les enfants, je vais partir dans telle ville avec les enfants, je vais déménager, etc. Il y a cette violence aussi, avec ces menaces, en fait. Là, il y a la violence financière. Ah ouais, je t'achèterai plus ça, ou je te coupe ton portable. Parce qu'il y a des femmes qui, par amour, elles arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants. Et parce que, par choix ou parce que ça leur est imposé, je ne sais pas. Moi, personnellement, ma femme, on a décidé qu'elle ne travaillait pas pour s'occuper des enfants. C'est notre choix. On l'a décidé ensemble. C'est elle qui veut, ça me va très bien. Le jour où elle veut travailler, je lui dis bismillah, travaille.
Travaille.
Voilà, c'est tout. C'est juste qu'on s'est dit, il vaut mieux éduquer nos enfants nous-mêmes que les faire éduquer par quelqu'un d'autre. C'est tout.
Merci pour cet excellent témoignage, Younes. Et pour ces conseils pour Lydia.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous, restez fidèles. Vous revenez quand vous voulez.
Je suis fidèle.
Merci à vous.
Au revoir.
Tiens, une thérapeute, mon signale-t-on au standard, justement. Eh bien, ça tombe bien. Yamina de Paris, vous êtes thérapeute. Psychothérapeute?
Oui, thérapeute. Bonsoir.
Oui, bonjour, bonsoir.
Je suis psychothérapeute, bonsoir. Donc, j'ai trois outils. Je suis thérapeute de couple, je suis sexologue et hypnothérapeute certifiée.
Alors, qu'est-ce que vous dites
Oui. Je dis que la violence, hélas, n'est pas le premier palier. Il y a un terrain favorable à ça, puisqu'il y a un problème de communication. Sur la thérapie de couple, on va dire qu'il y a dans les fondations du couple quatre piliers. Le premier pilier étant la dédramatisation et la bienveillance. Le second pilier étant le respect et la considération. Le troisième pilier étant l'amour. Et qu'est-ce que l'amour, mis à part que plein d'adjectifs vont se greffer dessus et qui seront tout à fait valables, mais c'est quand une personne est importante et prioritaire. Et il n'y a pas de quatrième pilier sans les trois autres, c'est-à-dire la communication authentique. Donc j'y viens. S'il y a violence, violence verbale, violence physique, c'est que les fondations du couple par ces piliers-là ont été erronées, notamment parce qu'il n'y a pas eu de communication. Et bien souvent, ça part d'un terrain favorable, puisque les seuils n'ont pas été mis, puisque au premier mot, puisque ça commence par des mots, ça commence par un dénigrement, ça commence par tâter le terrain en fait. Et puis ensuite intervient la violence, ne serait-ce que la première claque.
Dites-moi, qu'est-ce que vous dites à Lydia qui vous écoute, celle qu'on appelle Lydia, qui n'a pas osé passer à l'antenne par peur de représailles, qui a pris là, à l'instant même, me dit-on, au standard, elle a pris, au moment où elle appelait, un verre d'eau sur son crâne.
Alors, je dirais à Lydia, effectivement, moi, je comprends sa détresse et je comprends sa peur, parce que si elle a peur et qu'elle n'ose pas agir, c'est qu'elle n'a peut-être pas les moyens, forcément, d'aller ailleurs, voire à l'extérieur. Alors, c'est une question de capacité et de confiance en elle. Donc, si elle n'ose pas, c'est qu'il y a quelque chose qui la freine, soit des enfants, soit des moyens financiers, soit une peur de l'extérieur, parce que enfermée à l'intérieur, il y a plein de paramètres qui peuvent intervenir. Donc, c'est effectivement prendre son courage à deux mains, ne serait-ce qu'en parlant déjà à des proches, à des voisins, de s'exprimer, mais de ne pas taire la situation en tout cas.
Merci.
Même si elle ne veut pas en parler à l'extérieur.
Merci, Madame la... par exemple. Merci Yamina, psychothérapeute. C'était important aussi. On finit l'émission avec vous sur cette note, justement. Merci infiniment pour ces conseils précieux.
Merci à vous.
Merci.
Merci de l'aide que vous apportez aux gens.
Absolument, ben, c'est normal, c'est le lieu. Mais écoutez, vous savez, ça confirme encore une fois que... Merci, à bientôt Yamina.
Ça confirme avec encore une fois. Très bonne soirée.
Très bonne soirée. Ça confirme encore une fois, vous savez quoi, que cette émission, c'est la vôtre. Que les informés, c'est vous avant tout. On analyse, on décrypte, on commente l'actualité, vous savez, tous les jours ici, hein. Mais voilà, de temps en temps, moi, j'ouvrirai l'antenne pendant une heure avec vous sur des sujets comme ça, qui vous tiennent à cœur. Et je voudrais qu'on échange ensemble. Voilà, c'est comme ça qu'on doit avancer. En ne lâchant rien. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment parce que c'est avec vous les informés sur Beurre FM. 20h21h. Eh bien, vous avez rendez-vous avec Bilal Nedman et Time Sport. 21h c'est Vanessa. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir pour boucler la fin de semaine. Mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.